Le journal, Séverine Boé.
Donald Trump est le 47e président des États-Unis. L'annonce vient d'être faite. Le républicain a battu la candidate démocrate Kamala Harris. Notre dossier dans un instant. À Tramelan, une cour d'école s'apprête à changer totalement de visage. C'est le projet d'aménagement mené à la printanière. La recherche de dons commence en ce moment. On vous explique tout ça dans un instant. Ligue des champions, Young Boys veut enfin marquer des points dans la compétition. Après 3 défaites, le club de foot bernois va tenter de le faire ce soir à Gelsenkirchen en Allemagne, où il affronte le Shakhtar Donetsk. Météo, les brouillards et stratus remonteront jusque vers 1000 mètres d'altitude dans l'après-midi. Les températures ne dépasseront pas 13 degrés. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche se confirme. Plusieurs médias annoncent que l'ex-président a remporté l'élection présidentielle. Fox News et CNN désormais indiquent que le républicain a décroché suffisamment de grands électeurs pour faire son retour à la tête du pays, 4 ans après avoir été évincé. Vos précisions, Tony Montandon.
Cette fois, la messe semble être dite. Donald Trump avait déjà revendiqué une grande victoire politique, c'est le terme que le candidat a utilisé lorsqu'il s'est exprimé dans la nuit devant ses supporters. Les projections lui attribuent désormais 276 grands électeurs déjà. On rappelle qu'il en fallait 270 pour s'imposer. Sa rivale démocrate Kamala Harris, elle, n'en aurait pour l'heure que 223. Les états clés, ceux dont l'issue était incertaine avant ce scrutin, semblent tous s'être tournés vers l'ancien président. La Caroline du Nord, la Géorgie et le plus grand, la Pennsylvanie, ont d'ailleurs déjà validé des résultats en ce sens, et le verdict du Wisconsin tombé il y a quelques instants met fin au suspense selon plusieurs médias. C'est le plus grand retour sur la scène politique de l'histoire américaine, a affirmé de son côté celui qui va vraisemblablement devenir le nouveau vice-président, J.D. Vance. Car au-delà du nombre de grands électeurs, Donald Trump pourrait aussi gagner le vote populaire, donc le plus grand nombre de voix au niveau national. Ce serait une première pour lui après ses campagnes de 2016 et de 2020, une première même depuis 2004 pour les républicains.
Merci Anthony. Une élection qui aura été marquée par une campagne à rebondissement. Donald Trump aura fait, si sa victoire est confirmée, officiellement un comeback mémorable, visé par une deuxième procédure d'impeachment après l'insurrection du Capitole, empêtrée dans des affaires judiciaires. L'ex-président semblait presque grillé après son premier mandat, mais depuis l'annonce de sa candidature, il a su profiter de plusieurs tournants importants dans la campagne. Manon Becker.
Visage ensanglanté, hagard, mais point levé après avoir été touché à l'oreille par une balle le 13 juillet dernier. La photo fera le tour du monde un mois et demi après avoir été le premier président américain condamné au pénal, symbole d'une campagne imprévisible. 2 semaines plus tôt, son premier débat face à son rival d'alors, Joe Biden, est le premier gros tournant. Le président démocrate livre une prestation catastrophique. Le camp démocrate lui-même reconnaît un désastre. La crédibilité de Joe Biden est proche de s'effondrer. Des voix commencent alors à s'élever pour demander son retrait. Biden se retira moins d'un mois plus tard, le 21 juillet, Kamala Harris reprenant le flambeau. Entre-temps, Trump est sorti en survivant héroïque, voire en martyr de cette fameuse tentative d'assassinat.
Restait quand même à écarter quelques embûches, Manon.
Oui, notamment tenter de faire oublier les ennuis judiciaires. Juillet 2024, toujours ce mois où tout a peut-être basculé. La Cour suprême renvoie à une juridiction inférieure la question de son immunité dans l'examen de ses responsabilités pour avoir voulu renverser l'élection précédente début 2021. Premier obstacle écarté. Septembre, Donald Trump et ses avocats obtiennent un report du prononcé de la peine pour sa condamnation dans une affaire comptable. Report après la présidentielle. Le républicain salue cette décision qui lui enlève encore une embûche sur le chemin de la Maison-Blanche. Le débat avec Kamala Harris, parfois pathétique où on s'invective et s'insulte, ne rebattra pas les cartes. La démocrate perd des plumes auprès d'une frange de l'électorat pour ses positions jugées trop pro-israéliennes. Elle paye l'inflation croissante sous l'administration Biden, mais sort quand même en tête des sondages hier soir. Trump franchira encore cet obstacle et n'attend plus qu'une confirmation officielle de sa victoire.
Merci Manon. Une étiquette de survivant qui se relève de tout qui colle à Donald Trump sur l'ensemble de sa carrière. Avant même d'avoir tous les résultats officiels, il a célébré sa victoire devant ses supporters enthousiastes. « Nous avons écrit l'histoire », a-t-il lancé. Sans doute vrai, comme le montre le portrait du candidat républicain dressé par notre correspondant à Washington, Claude Porcella.
La victoire de Donald Trump est un retour sans précédent dans l'histoire récente. Son parcours est vraiment étonnant. Ce milliardaire qui avait bâti sa fortune dans l'immobilier à New York est entré en politique sur le tard en 2015. À la surprise générale, il bat en 2016 une politicienne chevronnée, Hillary Clinton. Sa présidence sera chaotique, il gère mal la pandémie, les scandales sont nombreux et quand il se représente en 2020, il est battu par Joe Biden. Mais il conteste sa défaite, prétend que l'élection était truquée, essaie par tous les moyens d'inverser les résultats. Mais son acte le plus répréhensible a lieu le 6 janvier 2021, quand il encourage ses partisans à marcher sur le Capitole, qu'ils vont saccager, alors que Trump les regarde à la télévision dans son bureau. Il attendra plusieurs heures pour demander aux émeutiers de rentrer chez eux. Trump a 4 procès sur les bras, dont un civil, mais en dépit de tout cela, au lieu d'aller en prison, tout semble indiquer, une fois que tous les bulletins auront été dépouillés, que pour la première fois dans l'histoire, un délinquant s'installera à la Maison-Blanche pour 4 ans. Il faut le faire.
C'était un sujet de notre correspondant à Washington, Claude Porcella. Et les Républicains qui sont aussi en passe de reprendre le contrôle du Sénat jusqu'ici aux mains des démocrates. S'ils se maintiennent à la Chambre des représentants, ils pourraient contrôler l'ensemble du système politique. Ce qui ne veut pas dire que Donald Trump aura complètement les mains libres, selon David Silvan. David Silvan, professeur en sciences politiques à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève et spécialiste des États-Unis.
Franchement, le pays est coupé en deux et complètement divisé. C'est presque 50-50. Hein. Donc, d'une part, c'est pas forcément donné qu'il va contrôler tout le Congrès. Mais d'autre part, la véritable question, c'est quelle sera donc la résistance envers lui. Parce que jusqu'ici, chaque fois qu'il a parlé des choses comme de s'installer comme dictateur, etc., tout le monde a dit « Ah non, c'est une blague, etc. » Maintenant, on va voir et on peut imaginer toutes sortes de tentatives à le contrecarrer, à la fois à l'intérieur du pays et surtout à l'extérieur du pays. Mais je crois que ça serait comme une bombe, effectivement, pour l'OTAN, pour l'économie mondiale, pour le Proche-Orient, etc. Et malheureusement, il y aurait énormément de conflits et de résistance pour des années à venir.
Des propos recueillis par Sarah Massy. L'élection s'est déroulée dans le calme et la régularité, c'est le constat dressé aux États-Unis par Jean-Luc Adore. Le conseiller national valaisan UDC a mené une mission d'observation autour de la présidentielle pour le compte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Il était présent dans le Nevada en tandem avec un élu allemand du Bundestag. Après avoir visité 17 bureaux de vote, il en ressort avec une impression positive. Jean-Luc Adore.
Le point de départ, faut pas l'oublier, c'était un pays extrêmement divisé, avec un président que certains, puis pas juste 2-3 personnes, jugent encore illégitime, avec une partie non négligeable de l'électorat, surtout du côté républicain, qui avait pas confiance dans le système. Ce qu'on a constaté, franchement, c'était plutôt rassurant, parce qu'on avait des bureaux qui étaient bien organisés. Tout se déroulait dans le calme et la sérénité, aussi bien à l'extérieur des bureaux qu'à l'intérieur. Ça donnait une image plutôt rassurante de la fin de cette campagne du dénouement. Et puis ça permet d'avoir un petit peu d'espoir qu'on va revenir dans ce pays qui est quand même en toute simplicité pour l'instant encore la plus grande puissance du monde.
Jean-Luc Adore répondait à Rhône FM. Cette mission d'observation va aboutir à un rapport global présenté en début d'année prochaine. Cette élection fait réagir en Suisse aussi. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche réjouit l'UDC bernois Manfred Buller. Pour tourner la page, Biden est démocrate, mais aussi parce qu'il faut relativiser la façon de faire de la politique aux États-Unis. Manfred Buller.
C'est une alternance qui est certainement bienvenue parce que le mandat de Joe Biden ne restera pas dans les annales comme un succès phénoménal. C'est sûr que la forme est surprenante vue d'Europe. Le débat politique américain est néanmoins très polarisé depuis toujours. On se souvient d'échanges homériques à l'époque Nixon-Kennedy ou avec Ronald Reagan. Donc c'est une culture politique très différente. Je pense néanmoins que le peuple américain reste un peuple adulte et qui, même si des choses peuvent être contestables sur la forme, lorsque quelqu'un se trouve devant un bulletin de vote, il va quand même prendre une décision en son âme et conscience. Et je pense qu'on fait beaucoup de foin autour de choses qui ne sont que des épiphénomènes au fond.
Des propos recueillis par Serge Hubin. Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis est au contraire une catastrophe pour le droit des femmes et des personnes LGBT, estime Tamara Funicello. La conseillère nationale et coprésidente des femmes socialistes rappelle que Trump a annoncé à plusieurs reprises son intention de limiter encore l'accès à l'avortement et à la contraception, un recul des droits des femmes qui ne se cantonne pas aux États-Unis. Tamara Funicello.
C'est très inquiétant pour le reste du monde, surtout parce qu'on voit que cette tendance, elle ne s'arrête pas aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que c'était Donald Trump qui a fait un deal avec les talibans et qui a donné en fait la possibilité aux talibans de faire ce qu'ils sont en train de faire avec les femmes en Afghanistan. Mais en même temps, on a aussi des tendances en Suisse. Si moi j'entends Albert Rusty qui dit qu'en fait Donald Trump comme président, ça c'est pas trop mal pour la Suisse, ça dépend quelle Suisse. Et surtout, là je me demande vraiment qu'est-ce que sont ses opinions concernant les droits des femmes. Et il ne faut pas oublier que ces tendances ne s'arrêtent pas aux États-Unis, elles existent aussi en Suisse, elles existent en Allemagne et en France, et ils sont en train de gagner de pouvoir très vite.
Tamara Funicello répondait à Marie Vieumier. Et par ailleurs, la candidate démocrate Kamala Harris, elle, ne s'exprimera pas avant plusieurs heures. Son équipe de campagne a affirmé qu'elle attendrait la fin de la nuit aux États-Unis pour prendre la parole. C'est un projet d'envergure qui est en passe de se concrétiser à Tramelan. Une cour verte devrait voir le jour à l'école primaire de la Printanière. Présenté ce matin, le projet comprend une multitude de facettes, parcours, mouvements, potagers, étangs, amphithéâtres, cabanes, sans oublier la réfection de la place de sport. Plusieurs enseignants ont mené la réflexion. Parmi eux, Laetitia Roth-Varisco, elle se souvient du point de départ de ce projet cour verte.
Mon véritable coup de cœur, c'était quand on a fait une exposition sur les oiseaux. Et Sébastien Gerber est venu ici, il est écologue. Et lui, quand il est arrivé sur le site de notre école, il a tout de suite dit « mais ici, il y a quelque chose à faire ». Et lui, il avait vu le projet à Glovelier, le projet Cour Verte, et il a dit « on peut essayer de faire un projet similaire ». Et moi, ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit « mais il a raison, c'est vraiment un projet qui m'a inspirée puis qui m'a portée ». C'est aussi une continuité, puisqu'on fait déjà l'école à la forêt, à notre canapé forestier. Troisième chose, parce que c'est qu'on vit quand même dans une société connectée et les enfants, ils ont besoin, un réel besoin de bouger et de se reconnecter à ce qui les entoure, de se reconnecter à la nature.
Le projet Cour Verte à la Printanière est chiffré à plus de 380 000 francs. Il bénéficie déjà de plusieurs soutiens financiers, ceux de la commune Tramelan et de la fondation Radix, portée par Roger Federer. Le canton doit aussi délier les cordons de la bourse. Pour le reste, une chasse aux dons s'ouvre en ce moment. Si tout se passe comme prévu, les premiers coups de pioche seront donnés en juin 2025 pour une inauguration courant 2026. Le quartier de Beaumont va passer en zone 30 à Bienne. Le conseil municipal a approuvé pour cela un crédit de 100 000 francs. La zone 30 sera déployée dès l'obtention de toutes les autorisations nécessaires. L'exécutif a aussi décidé d'autres mesures de circulation, comme la suppression de 37 places de stationnement réparties sur l'ensemble du quartier. À certains endroits, une interdiction de circuler aux véhicules motorisés, à l'exception des riverains, sera mise en place. Le dimanche 24 novembre, les citoyens biennois choisiront entre Natacha Pittet ou Glenda González-Bassi pour devenir la prochaine maire de la ville. C'est une première historique, car pour la première fois, une femme francophone de Surcois sera élue à ce poste. Le 22 septembre dernier, Glenda González-Bassi avait manqué la victoire de 102 voix. Pour ce deuxième tour, la socialiste nous explique ce qu'elle a changé dans sa campagne pour convaincre les électeurs.
Je dirais c'est peut-être la question du positionnement, d'être plus clair ou d'essayer en tout cas de me démarquer, dans le sens où pendant le premier tour, on a souvent fait le parallèle entre l'autre candidate et moi, en raison de notre âge identique, du fait que nous sommes deux femmes, deux francophones. Mais voilà, je dirais la différence s'arrête là et c'est mon travail maintenant de me démarquer et d'amener davantage le projet que je souhaite défendre, de manière à ce qu'il soit compris et puis à faire adhérer les gens à ce projet.
Le nom de la nouvelle maire de Bienne sera donc connu le 24 novembre.
RJB 12h29, Séverine Boé, on va transpirer un peu.
Sport. Young Boys est toujours en quête de ses premiers points en Ligue des champions de football. Les Bernois s'en vont à Gelsenkirchen pour défier le Shakhtar Donetsk. Le coup d'envoi de ce duel face aux Ukrainiens est fixé à 18h45. Et UB serait bien inspiré de ramener des points de son déplacement en Allemagne. Michel Léoni.
Young Boys a commencé sa campagne européenne par 3 défaites contre 3 gros clients, Aston Villa, Barcelone et l'Inter Milan. Les Bernois sont par ailleurs décevants en championnat, même si la semaine a été plutôt convaincante, avec 4 points amassés après avoir défié Bâle et Zurich. Face à IB ce soir, on retrouvera une équipe qui est en exil depuis 10 ans, car un retour dans la région du Donbass n'est pas envisageable. Une équipe qui ne compte qu'un point cette saison en Ligue des Champions, avec un nul décroché contre Bologne. Le Shakhtar n'a pas encore marqué sur la scène continentale. Pourtant, il faudra se méfier des Ukrainiens qui pointent actuellement au 3e rang de leur championnat, avec la meilleure attaque emmenée par le duo Ehori Sudakov et Artem Bondarenko. IB est prévenu, mais IB devra se montrer entreprenant s'il entend cultiver son rêve européen.
Le duel entre le Shakhtar Donetsk et Young Boys commence ce soir à 18h45 à Gelsenkirchen. Vous entendrez des réactions demain dans la matinale. En hockey sur glace, Gary Chian n'est plus l'entraîneur d'Olten. Le club solovrois de Swiss League a annoncé aujourd'hui le limogeage du Canado-Suisse et l'engagement de Christian Wolvend qui rebondit après son licenciement au HC Ajoie. Gary Chian paie les mauvais résultats de son équipe. En 17 parties, les Souris n'ont remporté que 7 matchs et concédé 10 défaites, toutes dans le temps réglementaire. Sauber tient son nouveau duo de pilotes. Gabriel Bortoletto conduira une Formule 1 de chez Sauber la saison prochaine. L'écurie de Hinville a annoncé l'engagement du jeune Brésilien qui fera équipe avec l'Allemand Nico Hülkenberg. Cette annonce est intervenue dans la matinée après avoir officialisé le départ de Valtteri Bottas et de Zhou Guanyu. Merci d'avoir suivi ces informations. Prochain point avec l'actualité à 13h. Excellente suite de journée à l'écoute RJB.